Christophe Théobald, vous êtes un théologien, mais vous êtes aussi un homme de la pastorale. Vous avez plusieurs vies. Vous êtes spécialiste du Concile Vatican II, mais vous êtes aussi quelqu'un qui essayait de faire entrer le Concile Vatican II dans la pastorale. Vous pouvez nous dire un peu vos différents champs d'action ?
Je suis d'abord professeur de théologie systématique, fondamentale et dogmatique aux facultés jésuites de Paris. Et ça prend évidemment beaucoup de temps d'enseignement. J'ai enseigné tous les grands traités de théologie, de christologie, de trinité, théologie de la création, l'anthropologie, l'ecclésiologie depuis maintenant une trentaine d'années déjà.
Pourquoi ce choix de la dogmatique ?
C'est parce que mon désir, c'est vraiment l'intelligence de la foi aujourd'hui. C'est pas uniquement interpréter, faire le commentaire des Écritures, mais d'essayer de retraduire dans une herméneutique aujourd'hui la foi pour les gens d'aujourd'hui. Et ça, c'est la tâche de la dogmatique.
Vous les rencontrez, les gens d'aujourd'hui ?
Alors, les gens d'aujourd'hui, je les rencontre beaucoup dans mon activité pastorale. Alors, pendant de longues années, c'était simplement la confession à l'église Saint-Ignace à Paris. Mais maintenant, je me promène beaucoup dans l'église de France, notamment dans un petit département assez dépeuplé, déchristianisé, qu'on appelle la Creuse. Il y a 120 000 habitants, il n'y a plus que 6 paroisses, énormes d'un point de vue territorial, et il y a quelques prêtres. Il y a une douzaine et j'essaye de les aider à réfléchir avec d'autres, surtout avec beaucoup de laïcs, d'envisager un peu l'avenir de cette petite église.
Vous envisagez l'avenir de cette petite église, un avenir qui passe, j'imagine, par une nouvelle évangélisation, une nouvelle façon de concevoir le baptême. Comment ça se passe ? Parce qu'on parle de la réception du Concile Vatican II, nous sommes en 2010, il y a déjà 50 ans, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler du Concile Vatican II.
Alors évidemment, dans ce département, je veux dire, les gens ne savent pas très très bien, sauf une toute petite élite, que c'est le Concile Vatican II. Mais alors l'évangélisation, à mon avis, commence avec la lecture des Écritures. Et ça, c'est une grande intuition du chapitre 6 de Dei Verbum. La lecture des Écritures, parce que ce livre, évidemment, c'est à la fois l'Écriture sainte de notre Église, mais c'est aussi un classique de la culture européenne. Et il y a beaucoup de gens en groupe d'évangiles, nous partons de cette manière-là, qui se retrouvent dans les maisons, dans les villages, chez les gens, pas chez le père curé. Parfois les prêtres sont présents, parfois pas, ce sont uniquement des laïcs. Et ce sont les gens qui ne pratiquent pas nécessairement beaucoup par ailleurs, mais qui se trouvent autour de ce livre. Et à ce moment-là, il y a des chemins extraordinaires d'un point de vue spirituel qui s'engagent. Vous avez aussi des conversions, des recommençants, des catéchumènes, etc.
Vous parlez aussi d'une pastorale.
Oui, d'une pastorale d'engendrement. Oui, ça c'est un peu un concept, je dirais, dans l'Église de France, on a beaucoup réfléchi ces derniers temps à la pastorale de la proposition, proposer la foi. Le risque évidemment de cette pastorale de la proposition, c'est peut-être ne pas assez prendre en compte, je dirais, le récepteur. Et un autre point qui me paraît extrêmement important, qui maintenant devient de plus en plus important dans la pastorale en France, c'est au fond l'analogie entre la transmission de la vie et la transmission de la foi. Et le terme d'engendrement, évidemment, il peut considérer les deux. Le terme engendrement, c'est à la fois la relation parentale et en même temps, c'est évidemment ce qui dit le cœur du mystère chrétien. Tu es mon fils aujourd'hui, je t'ai engendré. Hein, c'est le psaume 110.
Comment est-ce que la foi aujourd'hui, avec les sacrements, est-ce un nouveau défi pour l'Église, cette structure aussi de chaque homme ?
Moi, je suis très, très attaché à l'image du chemin, c'est-à-dire il y a une certaine gradualité, si je puis dire. Il faut commencer quelque part et au point de départ, ce qui structure l'homme, c'est d'abord au foi, ce que j'appelle une foi élémentaire, une foi anthropologique, un faire crédit à la vie. Et dans la rencontre avec des chrétiens, cette foi élémentaire peut progressivement s'articuler et éventuellement, et c'est toujours de l'ordre de la grâce, devenir alors une foi proprement chrétienne. Et ça se fait toujours à l'intérieur d'une série de rencontres. Et alors il y a des groupes qui peuvent se mettre en place, des recommençants, les catéchumènes, etc. Et progressivement, on voit bien que le corps est impliqué dans cette relation. Et une fois que quelqu'un commence un peu à saisir ça et de se mettre à la recherche de signes autour de lui, alors il y a toute une pastorale sacramentelle qui peut commencer et se mettre en place. Alors avec les différents symboles, je dirais surtout pour ce qui est de l'Eucharistie, je pense qu'il faut redécouvrir aujourd'hui un peu cette notion du repas du Seigneur, le jour du Seigneur, c'est-à-dire avec toute la dimension communautaire de ce repas et avec l'expérience de l'hospitalité. Et quand on voit l'évangile de Luc et aussi les actes des apôtres, on voit bien que l'Eucharistie, la scène, ne vient pas tout de suite. Il y a beaucoup de repas qui sont tout à fait symboliques et décisifs. Et à un moment donné, évidemment, la scène, c'est d'un autre ordre, mais elle se greffe là-dessus.
Vous avez employé cette très belle expression « faire crédit à la vie ». Qu'est-ce que c'est que faire crédit à la vie ?
C'est un peu comme Jésus qui découvre face au centurion quand il dit « jamais j'ai vu en Israël une telle foi ». Il ne l'a pas suscité directement, mais par sa présence, il a pu découvrir que cette foi était déjà à l'œuvre dans cet homme. Et pour le faire crédit à la vie, je dis, ça existe en tout être humain, parce que sinon, on ne peut pas vivre finalement. Et faire crédit, on entend déjà croire, faire crédit, le crédit, la confiance. Et alors, il y a des seuils dans la vie où ça ne va plus de soi, ce crédit à la vie. Et ça, c'est le moment essentiel. C'est à ce moment-là qu'il faut une présence auprès des gens. Et c'est là où on peut les aider à accéder précisément de nouveau à cette foi très élémentaire.
L'autre expression que vous avez employée, c'est tout le domaine de la relation.
Oui, dans le Concile Vatican II, c'est davantage le concept du dialogue. Et on risque évidemment, si on utilise ce terme, de penser uniquement au fond à un dialogue explicite, par exemple avec les juifs ou avec les musulmans, ou éventuellement avec d'autres chrétiens sur la foi chrétienne. Mais il y a un dialogue, je dirais, plus élémentaire que l'Église appelle le dialogue de la vie. Et c'est dans la vie quotidienne, au fond, que quand les rencontres sont un peu d'ordre, de l'ordre de la confiance, que subitement, des mots essentiels peuvent être dits sur la vie de quelqu'un, des confidences. Et je crois que c'est là où c'est très important d'être présent. J'aime beaucoup ce terme présence, hein, être présent. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de plus explicite à propos de la foi peut se passer.
Quelle est la réception de Vatican II dans les autres pays que l'Occident, dans les autres continents ?
Oui, à Rome, c'est un public très international dans les universités. Mais chez nous, dans notre université à Paris aussi. Mais il y a une diversité à propos de du Concile Vatican II. Si vous prenez par exemple le Brésil, que je connais un tout petit peu, évidemment, pour eux, le Concile, c'est Medellín, c'est Puebla, c'est Saint-Domingue, etc. C'est des différentes assemblées continentales. C'est les communautés de base. C'est une église, je dirais, très, très, très proche de la population. Maintenant, évidemment, avec tous les problèmes qui viennent des évangélicals, d'un côté, sorte d'émotionnalisation du christianisme en Brésil. Et je pense qu'ils sont en train d'entrer dans une sorte de nouvelle réception du Concile Vatican II à l'heure actuelle, qui était peut-être un peu unilatéralement orienté uniquement vers Gaudium et Spes. Ils sont par exemple en train de redécouvrir à l'heure actuelle la constitution Dei Verbum sur la révélation et tous les textes sur l'écriture. Alors ça, c'est l'Amérique latine. Quand on regarde en Chine, on connaît très 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 peu en Chine continentale le Concile Vatican II. Je pense qu'on est à peine en train d'entrer dans une toute première réception à l'heure actuelle, c'est-à-dire de connaître les textes. En Afrique, c'est le problème de l'inculturation.
Au Concile Vatican II, l'Église a pris conscience d'elle-même. Quelle est la dimension missionnaire qui permet à l'Église d'être l'Église finalement ?
Oui, moi je pense qu'il y a quand même là une grande tension dans le Concile, que Paul VI lui-même a craint d'une certaine manière. Pendant la deuxième période, l'Église. Pendant la troisième période, encore l'Église. Et c'est lui qui a fait avancer le texte sur la mission, sur l'activité missionnaire de l'Église, précisément, et il a bien dit ça d'ailleurs dans sa dernière allocution, le 7 décembre 1965, au moment de la clôture du Concile, avant la grande célébration du 8 décembre, il a dit « il faut quand même décentrer l'Église, d'abord vers Dieu ». Ça, c'est tout à fait central, et ça, c'est la constitution Dei Verbum, la révélation, et vers les hommes de toutes les cultures. Et c'est là où intervient la mission. Une Église décentrée, je crois que c'est très important, notamment ici en Europe, à l'heure actuelle, où moi, je crains une certaine communautarisation de l'Église et une sorte de fermeture sur soi.
Père Christophe Théobald, quand vous rencontrez vos paroissiens dans la Creuse, comment est-ce qu'ils vous vous abordent? Qu'est-ce que vous aimez vivre avec eux?
Oui, je suis à peu près 2 mois, 3 mois avec les gens de la Creuse. J'ai un peu mon ermitage là pour me retirer aussi, pour travailler. Et surtout pour travailler pour la formation permanente, ça c'est pour l'ensemble du département, et d'accompagner l'équipe de pilotage des prêtres. Alors, à côté de ça, je prends et volontiers du temps de célébrer parfois le dimanche l'Eucharistie avec les gens. Et je crois que ce qu'ils aiment bien, ils me l'ont dit toujours, quand je parle de la foi, je commente l'Évangile, mais j'essaye de montrer la profonde humanité qui est véhiculée par ces textes et qui nous ouvre finalement à la fois au mystère de l'homme et au mystère de Dieu.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Ah, je viens de publier un livre auquel je tiens beaucoup. C'est la question de la vocation. Ça s'appelle « Vous avez dit vocation, point d'interrogation ». Être chrétien, c'est une vraie vocation, et que derrière cette vocation, finalement, tout être humain a une vocation. Faire son métier d'homme et de femme aujourd'hui, c'est une vocation. Et chaque être humain a un chemin unique. Et il s'agit de découvrir ça.
Est-ce qu'on peut dire que découvrir sa vocation, c'est une façon aussi de faire crédit à la vie et faire crédit à Dieu?
Tout à fait.